France Inter.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, Loisirs, Plaisirs et Curiosités, le club du vendredi qui tente d'enchanter modestement votre vie quotidienne. Et ce matin, l'occasion du festival Quai du Polar qui ouvre ses portes à Lyon à partir du 5 avril, nous évoquons le plaisir de lire des polars pour mieux comprendre les autres, soi et la société. Le polar que l'on confond souvent avec le roman noir qui n'est pas un genre mais un regard selon l'éditeur Aurélien Masson. Nous verrons si la journaliste Christine Ferniaud et le libraire Théodore Dillerin sont d'accord avec cela. Nos deux passionnés vous proposeront également quelques polars et romans noirs à lire pendant le week-end de Pâques et les vacances de printemps. Grégory Cohen partagera une recette pascale et orientale. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour.
Quel est le menu de votre chronique philo?
Vous êtes en train de boire.
Ne vous étouffez pas, Thibaut, on a besoin de vous encore.
Mais tout va bien. Écoutez, puisque l'on parle polar, dans les polars, il y a des crimes. S'il y a des crimes, c'est qu'il y a du mal. Une question, d'où vient le mal?
Ah ouais, carrément.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Qui deviendra notre ami cette semaine? Alors, on va juste parler des coulisses de l'émission. Vous m'avez proposé un ami pour cette semaine. Et il se trouve que vous l'aviez fait il y a un an.
Absolument. Voilà.
Philippe Marlowe, hein, on peut
alors,
le dire.
Oui, donc...
Et vous avez écrit une...
Ah bah la chronique est prête. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez un
mais
bonus...
très différente de celle que vous aviez faite il y a un an.
Oui, c'est-à-dire que je vous propose Philippe Marlowe, je suis toute contente, vous dites oui. Je commence à écrire ma chronique, je suis toute contente pareil. Et puis je cherche un petit détail sur Internet, une petite citation. Et là je tombe sur Philippe Marlowe, l'ami du vendredi. Je me dis quoi ? Et j'ai mis un moment à réaliser que c'était moi qui avais déjà fait ça. Donc,
Les infirmiers psychiatriques vous attendent
à la sortie.
À la sortie. Alors qui est notre ami cette semaine ?
C'est pas Philippe Marlowe, mais c'est quelqu'un. Bah vous verrez, du coup.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Bande annonce de votre chronique avec la langue.
Eh bien nous on va parler du type de langage qui vit dans les polars et notamment du mot polar, donc de l'argot.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Oh, bonjour Ali Rébéi.
Notre chef qui prépare l'ouverture de plusieurs restaurants à Rungis, dans le Val-de-Marne. Petit avant-goût de votre recette à partager ce week-end, à la fois orientale et pascale.
Exactement, une recette 100% française du coup. Une souris d'agneau aux épices, raselnout et un petit peu de miel.
Ça promet.
Aujourd'hui, je dirais qu'il faut être très mystérieux, j'en suis convaincu. Alors moi, quand j'ai commencé un peu naïvement à écrire, je me disais, ben voilà, pour faire peur, il faut y aller frontalement et exposer les scènes les plus terribles aux lecteurs pour les faire frissonner. Donc j'avais cette image-là, donc j'ai créé des histoires policières assez dures, où il y avait des scènes de crime, et je décrivais les scènes de crime vraiment telles qu'elles étaient, telles que les policiers pouvaient les décrire. Et je me suis rendu compte que finalement, ça ramenait beaucoup les gens à la réalité. Or, quand on lit un roman, il y a quand même cette envie d'évasion, même si on est dans un roman qui parle de notre monde. Et donc, avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fort de suggérer les scènes, de suggérer la peur, parce qu'en fait, ça fait travailler l'imaginaire du lecteur. Et quand on lit un livre, à la différence de quand on regarde un film, il y a cet imaginaire qui fonctionne vraiment de manière très très forte, et chacun se représente ses propres monstres, et c'est ça qui génère en fait la peur chez le lecteur.
Le romancier Franck Tilliez dans Grand Bien Vous Fasse en mai 2022. Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Alias Princesse Christine, vous collaborez à Jeudi Polar sur le site et l'appli libé.fr. Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Vous êtes libraire au Comptoir des Mots à Paris dans le 20e arrondissement. Christine Ferniaud, est-ce que l'appellation polar vous satisfait? Parce que Simon, Agatha Christie, Henning Mankell, Fred Vargas, Michael Connelly, Boileau et Narcejac, Conan Doyle, D.O.A., Franck Tilliez, Camilla Läckberg, Ruth Rendell, tous ces auteurs sont classés au rayon polar. Qu'est-ce qui les rassemble, Christine Ferniaud ?
Je pense que c'est mieux de dire polar que policier, parce que dans tous ces livres que vous citez, ces auteurs, il n'y a pas toujours des policiers. Et le genre polar, ça permet de regrouper à la fois du roman noir, du policier, du mystère, du thriller, de l'historique, du rural noir, même de l'anticipation polar, et même de l'humour. Donc c'est assez pratique. En fait, le polar, ça rassemble toutes les littératures, et c'est donc pour ça que c'est le genre numéro un aujourd'hui.
Théodore Dillerin.
Oui, oui, moi je suis d'accord avec Christine. Et même si la frontière a de plus en plus tendance à rétrécir, il y a des auteurs, quand je fais le tour des librairies, parce que en tant que libraire, je vais aussi dans les librairies, qu'on va trouver parfois en rayon polar, qu'on va trouver sur les tables de littérature, c'est pas toujours très clair. Parfois même des clients me disent « Mais pourquoi vous l'avez mis en polar ? Et pourquoi vous l'avez pas mis en polar ?» etc. Et donc c'est un genre qui est pas précis et qui va l'être de moins en moins, mais c'est un grand plaisir.
Thibaut ?
Excusez-moi, mais j'ai entendu Christine parler de rural noir.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est vrai que c'est un terme qui a été un peu créé à un moment où plein d'auteurs, d'abord les étrangers, les Américains en particulier, qui ont de grands espaces, racontaient des histoires criminelles qui se passaient dans la montagne.
Édité notamment par Gallmeister.
Édité notamment par Gallmeister, qui nous a fait découvrir tout un tas de contrées et d'auteurs et vraiment extraordinaire. Et à un moment, en traduction française, c'est devenu du polar rural. Et je trouve que rural noir, c'est un côté plus chic que polar rural.
Mais nous, en France, ça existait depuis un bout de temps. Pierre Magnan, avec le commissaire La Violette, il faisait du polar rural villageois depuis un bout de temps.
Mais oui, ça a toujours existé. Mais c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'un peu emblématique, ce qui se passe à la campagne. Mmh. Parce que pendant longtemps, le roman noir, c'était la ville. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui continuent à raconter la ville. On en parlera sans doute tout à l'heure. Mais il y avait aussi ce côté perdu dans la forêt, un peu conte de fées, ou bien perdu dans la montagne, ou bien simplement de vivre en dehors de la société.
Oui, et puis là, en l'occurrence, l'Amérique se prête particulièrement au rural noir parce qu'il y a toute cette partie déshéritée. On va dans les Ozarks avec Daniel Woodrell. Il y a des bons vieux Jim Thompson aussi. Vous parliez à Lyd Gallmeister. François Guérif, chez Rivage aussi, a édité des grands titres du polar rural.
Ou Ron Rash, aux États-Unis, dans la campagne, dans la montagne. C'est magnifique.
Alors, dans Libération, le 1er mars dernier, l'éditeur Aurélien Masson affirme que le roman noir n'est pas un genre, c'est un regard. Je cite Aurélien Masson, un regard qui plonge dans les racines du mal et n'a pas peur d'affirmer que les sociétés humaines sont surtout un lieu de conflits, de combats, qu'ils soient économiques, sociaux ou même tout simplement symboliques. Le noir, c'est une paire de lunettes qui transforme le regard et nous montre la réalité conflictuelle, bordélique, souvent douloureuse. Vous partagez ce point de vue, Théodore Dillerin ?
Pour prolonger, moi je citerai Dominique Manotti qui dit que le roman noir, une grande romancière française, qui dit que le roman noir, c'est ce en quoi les forces sociale rend le crime possible et en quoi la société rend l'homme criminel. Donc on peut avoir du roman noir qui sera classé en polar sans avoir l'enquêteur avec la moustache, la pipe et les codes très classiques du genre roman policier, mais c'est en quoi la société peut dévoyer le citoyen et le pousser au crime.
La moustache et la pipe, on avait fait un mix entre Inspecteur Clouseau et Maigret.
Entre Maigret.
Oui, moi je trouve que effectivement, Théodore a raison. Je pense qu'on a assez, on est assez proches, malheureusement, on pourra pas se disputer. Mais le roman noir, c'est plongé dans la société et le mal de la société. Donc c'est bien sûr du crime, mais c'est aussi la misère, c'est aussi les nuits des SDF, c'est tout ça le roman noir. C'est vraiment un roman social. Et effectivement, à un moment ou à un autre, il y aura un crime, mais il est logique, le crime, c'est peut-être d'abandonner quelqu'un dans la rue.
Dans le paysage contrasté des polars, quels sont les genres dominants ? Est-ce qu'on assiste à une baisse des ventes du polar pur et dur, bien noir, au profit par exemple d'un genre qui fait florès, le cozy crime, Théodore Dillerin ?
Le cozy crime a pas mal émergé ces dernières années. On aura peut-être
c'est du polar léger.
Ouais, c'est ça. C'est du polar léger, sucré. Cozy crime, cozy mystery, on dit aussi. On n'a pas un flic torturé.
Comme Agatha Raisin de M.C. Beaton.
Ah ben absolument. Mais en fait, Albin Michel avec cette série de M.C. Beaton, Agatha Raisin, a un peu lancé le genre en France. Ça existait déjà dans d'autres pays, mais si on se replonge dans les vieux Christie, Miss Marple, c'est du cozy crime, ni plus ni moins. Et Albin Michel a implanté ça en France en 2016. Il y a eu un énorme boom. Ça a un petit peu tendance à se tasser ces dernières années. Mais ça continue de se défendre, le cozy crime dans les rayons des librairies. Il y a le true crime aussi qui arrive maintenant, le crime réel. Donc là, c'est un...
Chez 10-18 notamment, il y a une collection.
Absolument, ouais. 10-18 et Society lancent une collection.
Très très bien.
Très très bien, où ils vont s'intéresser à plusieurs grands crimes qui ont défrayé la chronique aux États-Unis. L'un des derniers, c'est sur la mort d'Emmett Till, noir américain dans le Mississippi.
Qui est très très bien.
C'est absolument passionnant. Donc, c'est très bien. Donc il y a ces nouveaux genres qui émergent, le cozy, le true crime, mais le polar reste quand même mené par soit l'enquête assez classique ou soit le thriller. Parfois, ces deux genres se confondant. D'ailleurs, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Christine pour un livre.
Christine ?
Oui, le thriller, c'est vraiment un genre qui plaît énormément et qui s'est un peu dévoyé aussi parce que on en a plein la tête des petites filles qu'on massacre et ou qu'on met dans une prison avec des barreaux où elles s'accrochent à la porte comme ça en disant « Maman, maman, où es-tu ?» Et il y a eu quand même beaucoup ça avec le thriller. Heureusement, il y a les bons auteurs peuvent utiliser et détourner le thriller au mieux, c'est-à-dire le transformer en une histoire terrible, mais pas forcément dégoûtante.
Quels sont les auteurs phares en 2024, Théodore Dillon?
Alors, je pense que pour le savoir, c'est assez simple. Il faut se pencher sur la programmation des Quais du Polar qui arrive. Il y a 135 auteurs et autrices internationaux qui vont être là. Mais on peut déjà en sortir quelques-uns. Il y a Terry Hayes qui vient de sortir un bouquin chez Lattès, l'année de la sauterelle. Je pense que ça va être l'un des livres dont on va énormément parler cette année. S.A. Cosby aussi, publié chez Sonatine. Absolument incroyable. Un nouveau Pier Giorgio Pulixi, le nouveau maître du polar italien chez Gallmeister.
Redonnez son nom.
Pier Giorgio Pulixi, P-U-L-I-X-I, chez Gallmeister. Il y a la nouveauté qui arrive et j'ai hâte de mettre le nez dedans. En France, des plumes à suivre comme Alexis Leibsker, Benoît Philippon, un nouveau Benoît Philippon qu'on connaissait pour Mamie Luger, très drôle, Céline Dangean, et en septembre, un nouveau James Ellroy. Rivage annonce un Ellroy vintage, on n'en sait pas plus pour le moment, c'est top secret, mais autant vous dire que j'ai hâte de l'avoir entre les mains.
Allez, dans un instant, vous nous conseillerez quelques polars pour ce week-end pascal frisqué et venteux sur une grande partie du pays. Mais en attendant, place au petit plaisir du Club du Vendredi.
Au plaisir et bon amusement.
Merci.
Alors,
merci. J'ai plus le droit de faire
oui,
mon truc.
C'est vrai. Alors, Thibaut de Saint-Maurice, votre petit plaisir de la semaine, eh bien, c'est la fièvre d'Éric Benzekri, le co-créateur de Baron Noir, qui est quand même un petit chef-d'œuvre français, avec Nina Meurice, Anna Girardot et Benjamin Biolay. Le fumé de cette fièvre est très très bon. C'est disponible sur Canal+. Vous avez adoré ça.
Oui, alors on est exactement à l'endroit.
Moi, j'ai très envie de le regarder.
Voilà, et je vous dis, on est exactement au bon endroit pour moi, et c'est pour ça que c'était une question de plaisir. C'est que 3 épisodes ont été diffusés, et donc il en reste encore 3 que je n'ai pas vus encore. Voilà, donc on retrouve ce plaisir de l'attente, plaisir du suspens, du suspense, de l'action. La fièvre, c'est une série qui essaye de faire le portrait de notre opinion publique et de notre conversation médiatique à travers l'affrontement de 2 conseillers en communication. Alors dit comme ça, vous dites c'est un peu étrange comme pitch de série, on aurait aimé quelque chose peut-être d'un peu plus sexy ou d'un peu plus attirant. Et pourtant, voilà, la proximité avec le réel qu'on vit, elle est assez saisissante. Alors il y a des partis pris un peu étonnants, même parfois un peu dérangeants, mais j'attends de voir justement comment est-ce que ça va être résolu. Et donc voilà, moi je suis en plein dans ce plaisir de la fiction qui n'est pas le contraire du réel, mais qui permet au contraire de révéler les coulisses du réel.
Et ça raconte les fractures et l'extrême polarisation de notre société française.
Entre des groupes communautaires ou idéologiques qui s'opposent, qui s'affrontent, à coups de déclarations médiatiques, à coups de vidéos sur les réseaux, de tribunes dans les médias. Sauf que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, et puis il y a des intérêts qui veulent se défendre, et une vérité qui peine à poindre le bout de son nez.
Et ça parle de foot.
Et ça parle de foot.
Non, mais c'est important. Oui, parce sûr. Que ça dit qu'aujourd'hui, le foot est encore peut-être le dernier stade, c'est le cas de le dire, où on peut à la fois polariser nos haines, mais aussi essayer de rester tous solidaires, citoyens d'une même patrie, derrière une même équipe, enfin, un même drapeau. Enfin, mais c'est passionnant, franchement. C'est vraiment
la fièvre d'Éric Benzekri, c'est disponible sur Canal+, MyCanal. Julie Neveu, votre petit kiff de la semaine, c'est le concerto contre piano et orchestre au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Dernière représentation ce soir.
Exactement. Et il reste des places. Et c'est une performance complètement dingue qui est menée par Samuel Achache, un metteur en scène et musicien, et sa troupe, l'orchestre qui s'appelle La Sourde. Et en fait, il s'inspire d'un concerto de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Et pour le déformer complètement, il passe du classique au jazz. Et en fait, on a à la fois donc un batteur qui est aussi comédien qui s'appelle Thibaut Perriard, qui au début vient donner un monologue en avant-scène qui est complètement spectaculaire, de drôlerie, d'intelligence sur ce que c'est que la musique, ce que c'est que qu'écrire de la musique et être traversé de toute la noirceur du monde et la recracher dans la beauté de la musique, etc. Et puis on a les musiciens qui viennent se poser sur la scène comme ça et puis qui commencent à bouger avec leurs instruments, à complètement s'interrompre, rigoler. Enfin, c'est totalement bizarre et ça montre de façon mais inédite ce que c'est que le passage du classique au moderne et comment on transmet en vivant les émotions de la musique.
Ça s'appelle ?
Ça s'appelle Concerto contre piano et orchestre et ça va être enregistré, il y aura une version qui va paraître.
Et c'est au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris ce soir. Grégory Cohen, votre plaisir, bah c'est une balade en péniche la nuit sur la Seine à Paris. Est-ce que c'est romantique ?
Mais non, mais très honnêtement. Alors pour ceux qui n'habitent pas à Paris, je vous explique ce que c'est Paris aujourd'hui. Paris, vous imaginez, vous prenez la première à droite, vous tombez dans un trou. Ensuite, vous prenez la deuxième à gauche et vous avez des vélos qui viennent sur vous en contresens. Vous continuez un peu plus loin, la route est barrée, il y a des travaux. Et puis, il y a des poubelles. Enfin, c'est devenu un truc complètement dingue. Mais heureusement, j'ai redécouvert le charme de Paris en faisant une balade sur les bateaux parisiens de nuit. Et c'est exceptionnel. On passe sous les ponts de Paris, on voit l'ensemble des monuments qui sont éclairés, on voit l'île Saint-Louis. C'est d'une beauté, mais absolument dingue. C'est une parenthèse inattendue et enchantée, un vrai plaisir. Donc j'engage les Parisiens à le faire et ceux qui viennent à Paris à découvrir Paris sous cet angle-là.
Merci Grégory. Allez, il est 10h22, l'heure de retrouver. Ah oui, pardon, petit plaisir de Guimet. Votre plaisir, c'est un film, pardon. J'avais
c'est
tellement
pas parce que les infirmiers m'attendent à la porte qu'ils font.
J'avais tellement hâte de d'écouter votre ami du vendredi que voilà. Donc votre petit plaisir, c'est un film qui s'appelle Au Corneau, une histoire de femme de Jayon Camborda.
Oui. Absolument, une espagnole. C'est en salle depuis mercredi. Franchement, allez-y. C'est vraiment un film d'un féminisme, mais sensuel, organique, magnifique. Ça se passe en 1971 dans l'Espagne franquiste. C'est l'histoire de Maria. Elle aide les femmes à accoucher dans un petit village de Galicie. Et éventuellement aussi, quand les femmes peuvent pas se permettre d'avoir des enfants, elle les aide à avorter. Le problème, c'est qu'à un moment, il se passe un drame dans l'exercice de ses fonctions, disons, et elle est obligée de fuir. Et c'est, en fait, j'allais dire, juste l'histoire d'une femme qui fuit, mais un corps de femme incroyable filmé dans la nature et qui va après être aidé par différentes femmes au cours de sa fugue. C'est une merveille de cinéma. Vraiment, allez-y.
Ça s'appelle
Au Corneau, une histoire de femme.
De Jayon Camborda. Ouais. Allez, l'ami du vendredi à 10h23.
Ah bah oui, c'est encore moi alors.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guimette, qui deviendra notre ami cette semaine? Je sais que vous allez me faire plaisir.
Tout à fait. Enfin, même au-delà de ça, je vous obéis plus ou moins d'ailleurs. En fait. Bah oui, parce qu'après Philippe Marlowe, fallait quand même.
Petite injonction, on peut dire que c'est une commande.
C'est une commande. C'était pour garder ma place. Hein, parce que... Alors... Donc, je sais, cher Ali, que vous venez de découvrir The White Lotus, dont on entend, grâce à Pierre Destacan, la série, ce magnifique générique, complètement mais addictif. On a tous eu envie à un moment de le mettre comme sonnerie de téléphone.
Non, pas du tout, moi.
Ah bon? Donc, The White Lotus de Mike White, qui en fait est finalement l'équivalent télévisé un peu d'un roman noir à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est gorgé de critiques sociales, de luxe clinquant, qui rend dépressif, et de méchanceté, mais enrobé éventuellement dans du rose bonbon, du bleu piscine. Alors, au cœur de cette série, je me suis trouvé une amie pour la vie, même si on peut pas dire qu'elle soit exempte de défauts, hein, quand même. Hein. C'est la truculente Tanya McCoy, incarnée par cette bombe de 60 ans, oui. Jennifer Coolidge. Alors Tanya, c'est l'Amérique de Reagan à Trump. Elle est très blonde, très en chair, très 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 riche et complètement instable. Si cette héritière célibataire est venue séjourner dans ce palace, donc le White Lotus, c'est pas du tout pour s'éclater, hein, c'est pour répandre les cendres de sa mère bien-aimée dans l'océan. Tanya, elle pleure comme une enfant de 5 ans. Tanya, elle est drôle et pathétique en même temps. Elle est tellement en quête d'amour qu'elle jette d'abord son dévolu sur une pauvre esthéticienne à qui elle promet la lune, avant de l'oublier en un battement de fossile quand elle s'amourache d'un genre de vieux cow-boy en chemise bariolée. Derrière ses lunettes de soleil à 500 boules, Tanya regarde le monde de manière naïve et condescendante à la fois. On la déteste et on l'adore.
Et votre copine Tanya est devenue iconique grâce à son interprète Jennifer Coolidge.
Oui, alors, bon, elle est quand même déjà devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, parce que à travers elle, à travers ce personnage, le créateur de la série, Mike White, se paye la tête des ultra riches. Hein, mais alors à fond. Hein.
Et de façon subtile. Hein.
Oui, de manière subtile et de manière à la fois très contemporaine, mais aussi, comme ça, je vais le placer, vous allez voir, avec le même dégoût amusé qu'un Raymond Chandler. Allez, hop là. Merde. Alors, j'adorerais d'ailleurs, en vrai, que le détective Philippe Marlowe rencontre Tania. Moi, je pense que ça devrait, mais ce serait une rencontre incroyable. Et aussi, oui, Ali, Jennifer Coolidge, c'est un poème. Une grande actrice comique dont chaque mimique est unique, chaque réplique, souvent improvisée d'ailleurs, est collector. Grâce au personnage de Tania, Jennifer est sortie des oubliettes. En 1999, souvenez-vous, elle avait sacrément marqué les esprits dans le rôle d'une mère de famille qui couche avec l'un des amis de son fils dans American Pie, qui était devenu un succès mondial. Avec son franc-parler habituel, d'ailleurs, elle confiait récemment que ça lui avait ouvert pas mal d'horizons sexuels. Elle a dit « Il y a au moins 200 personnes avec qui je n'aurais pas couché sans American Pie ». Dans La Revanche d'une blonde, autre comédie culte en 2001, elle jouait une esthéticienne fleur bleue et très maladroite qui arrivait quand même à casser le nez du joli livreur qu'elle convoitait. Et puis, après beaucoup de galères, Mike White, donc, ouvertement gay, lui offrit Tania. Son personnage est d'ailleurs le seul à être présent également dans la saison 2, avec plein de gays autour qui cherchent à l'assassiner pour lui piquer ses millions. These gays are trying to kill me. Ces homos essayent de me tuer. Cette réplique orne désormais les t-shirts de plein de gays américains qui ont fait de Jennifer une icône queer. Grâce à The White Lotus, l'actrice dont plus personne ne voulait a pris sa revanche de blonde à 61 ans. Et lors de la cérémonie des Golden Globes, elle a livré un discours complètement perché, complètement drôle, complètement émouvant. Elle a dit « Mes voisins me parlent maintenant. Je n'étais jamais invitée à leur fête et désormais les invitations pleuvent. » Et plus tard, lors d'une interview, bon, elle a aussi fait une confidence vraiment unique en son genre. Elle a prétendu qu'elle rêverait d'incarner un dauphin.
Regardez vraiment The White Lotus qui est disponible sur Prime Vidéo ou en DVD. Les bons vieux DVD, saison 1 et 2.
On peut acheter le DVD parce que ça reste collectif.
Merci Guimet, on peut retrouver tous les épisodes de L'Ami du Vendredi sur l'appli Radio France tout au long de la semaine, et celui de Philippe Marlowe notamment. Voilà. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Matteo Scognamiglio et Joachim Taieb, avec l'aide de Charles Thierry à la réalisation Claire Destacant, qui adore The White Lotus, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Merci aux standardistes et aux techniciens qui se sont succédés tout au long de la semaine. J'aimerais saluer le départ de France Inter pour France Bleu de notre directeur adjoint Yann Chouquet. Yann, merci à toi pour ta confiance, pour nos échanges, tes remarques et conseils qui ont permis de faire évoluer Grand Bien Vous Fasse. Je me souviendrai longtemps de ce moment fort que nous avons vécu pendant le Covid et en particulier pendant le premier confinement où tu n'as pas compté ton temps et ton énergie pendant cette période. Merci à toi et bon vent dans ce beau projet à France Bleu. Et j'aimerais saluer également le départ à la retraite d'une figure très attachante de France Inter qui va nous manquer dans les couloirs de la Maison de la Radio, Françoise Bonnet, conseillère cinéma-théâtre à qui l'on doit le label France Inter. Grâce à son travail passionné pour dénicher les meilleurs films à associer à France Inter, notre station a récolté, on peut le dire, des dizaines et des dizaines de César, Palme d'Or, Prix Louis de Luc, Oscar. Françoise Bonnet qui a également réalisé les émissions de José Arthur, Daniel Mermet, Gérard Lefort ou encore Jean-Luc Hesse. Merci Françoise Bonnet pour ton formidable travail à France Inter. Dans un instant, quelques polars et romans noirs à déguster en ce week-end de Pâques. Ce sera juste après avoir écouté Tears for Fears, Mad World, un titre sorti en 1983, 10h presque et demi sur France Inter. I'm Pierce interpréter Mad World.
Roman. Roman policier.
Grand bien vous fasse.
Par Louis Bourdin.
À lire et bille.
Il me faudra un nom américain. Fleming. Adléchasse. Chandler. Les mieux sont pris.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, loisir, plaisir, curiosité. Une petite sélection de polars et de romans noirs à l'occasion du festival Quai du Polar qui débute à Lyon le 5 avril prochain avec 135 auteurs du monde entier invités, avec les conseils de lecture de la journaliste Christine Ferniaud et du libraire Théodore Dillerin. Alors Christine Ferniaud, on débute avec vous, avec l'un de vos auteurs fétiches, Denis Lehane, et vous conseillez Le Silence, publié chez Gallmeister.
Alors vous voyez comme je tremble là, oui. À l'IRBI, parce qu'en fait, Denis Lehane, je vais le voir à Lyon, je vais même l'interviewer le samedi à 14h.
Samedi 6 avril.
samedi 6 avril
au Théâtre des Célestins.
Au Théâtre des Célestins, et je ne sais pas si j'arriverai à ramper jusqu'à la scène, mais non, c'est sans plaisanter cette fois. Denis Lehane, Le Silence, c'est publié chez Gallmeister, c'est traduit par François Happ, et c'est peut-être... Ah, j'ose le dire, son meilleur livre, parce que c'est l'auteur quand même de Mystic River, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'auteur de Shutter Island, et c'est l'auteur de la ville de Boston, sa ville. Il est né là, il est né dans le quartier irlandais, il en parle merveilleusement bien à travers tous ses livres. Et là, dans ce livre-là, il réunit ces fameux genres polars dont on parlait tout à l'heure, à la fois du roman noir, de l'enquête, du mystère, de l'histoire. Mmh. Parce que ça se passe en 1974, et le projet de départ, c'est que on veut essayer de déségrégation. Et donc, en décidant d'envoyer des enfants, des élèves noirs dans des quartiers blancs et des élèves blancs dans les quartiers noirs. Évidemment, ça a l'air tellement simple comme ça que ça n'est pas possible. Mais derrière tout cela, il y a surtout l'histoire d'une femme qui s'appelle Marie Pat, qui est une héroïne extraordinaire parce qu'elle est extrêmement modeste. Mais sa fille de 17 ans, qui est un peu toute sa vie, elle s'était chinée à l'élever, à faire plein de boulot dans la journée pour élever cet enfant, cette jeune fille qui a disparu. Et on va comprendre que c'est à la fois des problèmes de communauté, des problèmes de racisme, un personnage de flic qui est plutôt sympathique, et ce thème de l'enfance qui, chez Denis Lehane, est permanent, parce que Mystic River, c'était ça, c'était des copains, et puis il se passe un drame au milieu de tout ça. Et ce livre, il est à la fois bouleversant et d'une puissance historique extraordinaire, et d'une belle écriture. Il y va carrément, ce type est un génie.
Théodore, j'ai pas grand-chose à ajouter, ce n'est que, bien sûr, moi aussi...
Il est un génie.
Il est un génie, et Le Silence est un de ses meilleurs livres, si ce n'est le meilleur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Le Silence, on en parlera encore dans 30 ans comme un classique de la littérature américaine. C'est pas un polar qui est sorti à un moment, qui a parlé à un public à un moment. C'est un grand roman américain qui nous dit quelque chose de ces États-Unis qui rentrent un peu du Vietnam, la tête baissée. Et on est vraiment sur une période, mais qui nous parle encore aujourd'hui de racisme, de tensions aux États-Unis, et alors avec une maîtrise et un style qui fait qu'on n'arrive pas à le lâcher, c'est incroyable.
Denis Lehane, qui publie donc Le Silence.
Denis, si tu m'entends,
chez Gallmeister. Théodore Dillerin, vous nous conseillez L'année de la sauterelle de Terry Hayes chez Lattès.
Ah mais oui, L'année de la sauterelle. Alors Terry Hayes, il y a une dizaine d'années, il a écrit un livre, un seul, Je suis pilgrim, énorme succès, best-seller, etc. Entre-temps, il a fait de la réalisation, il a notamment fait Mad Max 2, il bosse pour des gros blockbusters américains, et là, 10 ans plus tard, L'année de la sauterelle, 687 pages, je crois, donc un beau pavé. L'année de la sauterelle, c'est 50% Mission Impossible, 50% Argo, 50% James Bond et 50% MacGyver. Je sais, ça fait 200%, mais c'est 200% inlâchable. C'est l'histoire d'un agent de la CIA qui est envoyé dans des zones interdites, donc c'est-à-dire que s'il se fait choper, jamais les États-Unis n'accepteront de dire qu'ils l'ont envoyé là-bas, qui doit mettre la main sur un méchant, très 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 méchant, qui pourrait anéantir le monde. On est vraiment sur de l'efficace, des chapitres de 2-3 pages avec à chaque fois les fameux cliffhangers qu'aiment beaucoup les lecteurs de polar. On est au bord de la falaise et on veut savoir ce qui se passe, et on avait dit, mais j'éteindrai la lumière après ce chapitre, et en fait non, 2 heures après, on est encore en train de lire, il est 6h du matin, on se lève dans 2 heures, mais on est pris dans la lecture. Donc absolument incroyable, de rebondissement en rebondissement, de toujours plus en toujours plus, mais alors quel plaisir de lecture, quel kiff.
L'année de la sauterelle de Terry Hayes, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Christine Ferniou, une autrice française que je ne connaissais pas, Marion Brunet, qui publie Nos armes chez Albin Michel. Marion Brunet.
Alors Marion Brunet, elle est connue aussi par une littérature jeunesse très exigeante et très brillante. Vous recevez souvent Raphaël Bott pour parler de littérature
mercredi
jeunesse.
Dernier.
Elle a dû vous en parler parce que on a les oreilles qui frétillent avec ce qu'elle écrit en littérature jeunesse. Là, c'est la littérature adulte. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais Nos armes, c'est en fait une histoire d'amitié, d'amour, de révolte, et ça se passe dans les années 90 avec deux filles qui sont presque des ados, et on va les suivre pendant 25 ans. Il y a Axel et Mano, toutes les deux, elles veulent changer le monde, tout simplement, donc elles y vont un peu fort. Alors il y en a une qui va se retrouver après un braquage raté en prison, Axel, et Mano est dehors, et leur amour, leur amitié entre les deux, ça va être compliqué. Il y en avait une qui va disparaître, l'autre qui va s'étioler en prison. Et c'est à la fois chez Marion Brunet une très très belle écriture, très solaire, parce que c'est une fille du Sud, donc le solaire, on le voit dans ses livres. Elle raconte la grande histoire, cette histoire des années 90. Elle raconte aussi quelque chose de très romanesque. Et la construction, l'émotion de son écriture transparaît à chaque instant, c'est beau. Et alors, c'est une tristesse.
Non.
Mais d'une tristesse. Moi, j'ai pleuré à la fin. Donc, c'est vraiment un livre exceptionnel. Marion Brunet, c'est vraiment une grande romancière.
Nos armes de Marion Brunet, c'est publié chez Albin Michel. Théodore Dillerin, pourquoi est-ce que vous avez choisi
Proie, au pluriel.
Proie, de André Michaud chez Rivage Noir. Proie de André
Michaud.
Mais bien
sûr, Christine, c'est pas bien, c'est inoubliable.
C'est grand.
C'est très grand. Non, j'ai choisi Proie d'André Michaud parce qu'il vient de sortir en poche chez Rivage Noir. Et tous les ans à la librairie, j'essaie de faire un petit peu mes top lectures. Et ça, c'était ma meilleure lecture polar de l'année dernière quand il était sorti en grand format. Parce qu'on est vraiment dans du thriller. Très écrit, c'est la rencontre entre le thriller et la littérature dans ce qu'elle a de meilleur. André Michaud, elle est québécoise et elle écrit en québécois. Il y a une langue qui est là, québécoise. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait québécois LV2 pour la comprendre. Hein. C'est l'histoire très simple, banale sur le papier, de trois ados qui disent à leurs parents « Foutez-nous la paix, on part camper 3 jours dans la nature. Pendant ce temps-là, il y a la fête du village qui va battre son plein. » Et on revient dans 3 jours, laissez-nous tranquilles. Le premier soir, ils jouent à se raconter des histoires, à se faire un petit peu peur. Et le deuxième jour, ils sentent une présence. Et effectivement, ils ont l'impression que leur campement a été visité et ils ne se trompent pas. Un chasseur est là, tapis dans les buissons et les a pris pour cible. Et de campeurs, ils deviennent les proies. Et là, la chasse à l'homme est ouverte. Impossible à lâcher, très bien écrit, et ce qui fait la force de ce roman, c'est la plume d'André Michaud, c'est des descriptions de cette nature québécoise à la fois grandiose et très inquiétante, et c'est plein de messages qui sont derrière. Ce que c'est d'être ado et de vouloir s'émanciper de l'autorité parentale, ce que c'est d'être parent et de se dire que son gamin est en train de se faire buter par un fou furieux, et ce que c'est d'être ce fou furieux qui a passé un cran de trop et l'engrenage s'est emballé. C'est génial.
Et moi qui croyais, Théodore Dillerin, que votre meilleur polar l'année dernière, c'était le mien. Bon.
Mais aussi,
Je
vous chambre.
J'ai eu la même réflexion à lui et j'ai été assez surpris.
Je vous chambre, Théodore, bien évidemment.
Pas Théodore.
Et ça s'appelle votre choix.
Ça s'appelle Proie d'André A. Michaud et ça vient de sortir en poche chez Rivage Noir. Courez chez vos libraires.
Christine Ferniou, qu'est-ce qui vous a plu en lisant La disparition d'Hervé Snout? J'adore ce nom. La disparition d'Hervé Snout d'Olivier Bordassar, publié chez De Noël. Très belle couverture.
Alors c'est, et oui, en la disparition, parce que effectivement derrière tout cela, il y a peut-être une référence littéraire, comme on peut l'imaginer. Mais je ne dis rien tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre extrêmement drôle. Ah. Extrêmement sanglant, extrêmement horrible, mais qui commence très très tranquillement. C'est-à-dire qu'on est chez Monsieur et Madame Snout. Odile est en train de préparer le bœuf bourguignon. Le fils se régale à l'avance. La fille, elle mange pas de viande, alors assurant tout pas. Et Hervé, le mari, dont c'est l'anniversaire ce soir, est en retard. Il est tellement en retard qu'il a disparu. Mais Hervé est aussi le directeur de l'abattoir local. Et dans la deuxième partie, on va comprendre que Hervé est une ordure. Que ça ne le dérange pas du tout qu'on tue les animaux en les faisant souffrir, que les employés le supportent de moins en moins. Et c'est un livre qui avance comme ça, qui tire des fils, et on va vers quelque chose de terrible. Et en même temps, grâce à Odile, entre autres, c'est assez, extrêmement drôle parce que elle sait accommoder la viande. Je vous en dis pas plus parce que là, ça va beaucoup plus loin.
Mais
donc, on parle de violence sur les animaux, on parle de violence sur les hommes, on parle de violence sur la famille, de souffrance animale, et en même temps, à travers ces détails sanglants, il y a aussi une autre famille d'accueil qui est extrêmement sympathique, et cette industrie de la mort dont il parle est remarquable. Alors juste vous dire, la disparition de Pérec, il y a quelque chose là-dedans.
Et quand je lis au hasard, page 224, cette phrase-là, il reprend une gorgée de café, son visage est aussi fermé que la Pologne de Jaruzelski. Moi, je vous quitte le livre.
Ah ouais, mais c'est, vous n'allez pas, c'est pas triste. Hein. Mais après, pour la
On n'a pas le temps, Théodore Dillerin, mais vous gardez votre polar là, pour la prochaine fois. Vous viendrez dans l'émission. Il est déjà 10h42, l'heure de retrouver la chronique philo de notre camarade Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors mon cher Thibaut, vous n'avez pas peur de poser l'une des questions les plus fondamentales de notre existence, d'où vient le mal ?
Mais oui Ali, parce que d'une certaine manière, il n'y a pas de polar sans crime, de quelque nature qu'il soit, et donc dès qu'il y a crime, évidemment, la question du mal se pose. Et d'une certaine manière aussi, chaque polar propose, raconte, à travers son histoire singulière, son univers singulier et ses valeurs, une certaine explication du mal. Alors commençons par distinguer, il y a mal et mal, on distingue classiquement en philosophie entre le mal naturel ou physique, qui renvoie aux souffrances des maladies ou des catastrophes naturelles que l'on subit. Il y a le mal moral qui renvoie aux fautes que nous commettons et à la méchanceté que nous imposons aux autres. Et puis il y a le mal métaphysique qui renvoie cette fois aux défauts de notre condition humaine, à la limite de notre mortalité, de notre action, de notre connaissance. Alors je ne vais clairement pas pouvoir être exhaustif hein, dans une chronique de 3 minutes et des brouettes, et donc je vais me concentrer sur le mal moral, celui qui attaque toutes nos relations aux autres et la relation que nous avons aussi avec nous. Même. Et puis si vous restez sur votre faim, hein, chers auditeurs, auditrices, alors vous pouvez écrire à Ali Rebéi, qui est ici présent, pour lui demander d'augmenter le temps qui m'est imparti.
Voilà. Bien évidemment. Alors quand le mal est fait, est-il fait pour lui-même ou simplement parce que nous ne parvenons pas à faire le bien ?
Alors si on écoute l'ami Socrate, nous ne faisons jamais le mal pour le mal. De façon un peu provocante, il affirme que, je cite, « nul n'est méchant volontairement ». Autrement dit que le mal ne trouve pas son origine dans une volonté de faire le mal, mais dans une erreur à propos du bien. Si on est méchant, c'est donc parce qu'on se trompe à propos du bien. Personne ne ferait donc le mal pour le mal, mais on ferait du mal à quelqu'un en pensant que c'est bien, en prenant un bien apparent pour un bien réel, comme si on faisait une erreur de calcul, par exemple. Alors, comment comprendre alors que l'on se trompe à ce point, que l'on fasse de telles erreurs ? C'est là que l'on peut se mettre à l'écoute d'un autre ami philosophe, l'ami Rousseau, pour qui l'homme est bon par nature, mais c'est la société qui le corrompt. La méchanceté des hommes s'explique ici par le jeu même d'une vie sociale qui excite les passions de comparaison, l'envie, la jalousie, le désir de domination et de reconnaissance. Et ici s'ouvre la voie de toutes les causes sociales du mal. Notre méchanceté serait le résultat de l'état de la société, de l'éducation reçue, de l'époque dans laquelle on vit. C'est l'histoire d'une conscience morale pure et innocente qui se trouve corrompue par la méchanceté de ce qui l'entoure. Mais d'où vient la possibilité même qu'il puisse y avoir du mal ? Même en considérant l'influence de la société et de l'éducation, ne sait-on pas vraiment que l'on est méchant quand on est méchant ? C'est ce que fait remarquer cette fois Kant. En soutenant que même le pire des criminels, quand il commet son crime, sait qu'il fait le mal. Autrement dit, que personne n'ignore jamais la loi morale. Alors, la loi morale, c'est le nom que Kant donne à notre devoir. Si donc, nous avons tous une claire connaissance de ce que nous devons faire, d'où vient que nous ne le fassions pas toujours ? Eh bien, il faut remonter à la racine du mal pour comprendre que la possibilité du mal, c'est l'envers de notre liberté. Au fond, ça serait la seule manière de comprendre le mal. Comme une sorte de côté obscur de la liberté, cette liberté qui nous dispose au bien comporte à la racine la possibilité que nous fassions le mal, sans quoi nous ne serions pas vraiment libres. Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire, beaucoup à questionner pour continuer de comprendre d'où vient le mal. Mais sans oublier, avec l'ami Ricoeur, enfin, que l'important n'est pas seulement de se demander d'où vient le mal, mais surtout de trouver comment lutter contre lui. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous aimons lire des polars.
Un spécialiste du mal, Théodore Dillerin.
Ah, mais je pense que si je lisais pas de polars, j'aurais déjà tué plusieurs personnes autour de moi. Hein. Vous aussi, il y a une fonction cathartique. Ouais.
Vous aussi, Christine Ferniaud.
Oui, enfin, moi, maintenant, je vais un peu m'éloigner de lui, surtout.
Toutes les chroniques philo de Thibaut de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Grégory Cohen. Alors Grégory, au menu de ce week-end, moi ça me donne envie là, votre recette. Une recette orientale et pascale.
Un tagine d'agneau, un tagine de souris d'agneau. Alors, pour 4 personnes, c'est hyper simple à faire. Hein. Surtout, vraiment, quand on dit tagine, on a toujours l'impression de se dire que, oh là là, c'est compliqué, ça va être difficile. En fait, le tagine, c'est vraiment la simplicité absolue. On met globalement tout dans un plat, on laisse cuire et c'est prêt. Donc, pour faire ce tagine de souris d'agneau, il nous faut 2 souris d'agneau, 100 grammes d'olives, 4 oignons ciselés finement, 2 gousses d'ail émincées et pour l'assaisonnement, 1 cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à café de ras el hanout. Alors le ras el hanout, littéralement, ça veut dire tête de boutique en arabe. C'est-à-dire le ras el hanout, en gros, c'est un mélange qui dépend de la personne qui va le faire, mais qui globalement est un mélange d'un maximum d'épices et des meilleures épices de la boutique. Il nous faudra aussi 2 cuillères à café de paprika fumé, 1 cuillère à café de gingembre en poudre et du miel. Moi personnellement, j'adore le miel de sarrasin, essayez-le. Il est un peu plus corsé. De l'eau, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Allez, ça démarre. On fait chauffer l'huile dans un plat à tagine ou une cocotte si on n'en a pas et on met la viande à colorer pendant environ 5 minutes. On la retire, on la remplace par les oignons qu'on fait fondre. Pendant ce temps-là, on roule les souris d'agneau dans le mélange d'épices, curcuma, ras el hanout, gingembre, paprika, sel, poivre. On les place dans le plat avec les oignons. On ajoute les olives, on ajoute le miel sur les souris d'agneau, un peu d'huile d'olive. On laisse cuire pendant 15 minutes. Ça va rissoler. À ce moment-là, on va déglacer avec de l'eau froide, environ 20 centilitres. Du coup, ça va récupérer tous les sucs de cuisson et ça va commencer à faire notre jus. On couvre, on met au four à 120 degrés. Pendant 3 heures, et puis après vient le temps du dressage. On va disposer la viande, les oignons sur un plat, on va napper de sauce, on va accompagner ça de riz ou de semoule, et puis il ne vous restera plus qu'à le déguster. C'est fondant à souhait, c'est un mélange de sucré salé, c'est diaboliquement exquis.
Le ou la souris d'agneau, je vois sur internet qu'il y a débat.
Alors, une souris verte, bah, peut-être la souris,
d'agneau, me semble. J'aime bien vous faire des petits pans sur le bec, mon cher Grégory Cohen.
Merci beaucoup.
Je suis toujours là pour ça, votre service.
Merci, Ali.
À propos de polar, on a reçu beaucoup de messages. Evelyne qui nous dit « Je me demande parfois si je suis saine d'esprit et quel plaisir je prends en lisant un livre de Tilliez, particulièrement hard dans les scènes de crime, la perversité des personnages. » Et ça, c'est pour vous, Guillemette. Yolande qui dit « Je lis une merveilleuse autrice américaine depuis des années, Elizabeth George. Elle situe toutes ses enquêtes en Angleterre. Il y a toujours un fond sociétal à lire. » Absolument, je suis un peu d'accord avec vous. J'adore Elizabeth George.
C'est la grande héritière d'Agatha Christie.
Allez, la recette de tagine de souris d'agneau de Grégory Cohen est à retrouver sur votre compte Instagram Grégory Cohen off avec
deux F.
Et dans un instant, la chronique de Julie Neveu avec la langue. En attendant, on écoute Zao de Sagazan qui interprète Aspiration.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. Sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence pour de l'inspiration. Je deviens bête, tout devient dense, mais jamais. C'est ma
Zao de Sagazin interprétait Aspiration.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non ?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Avec la langue, la chronique de Julie Neveu. Alors dites-moi Julie, pourquoi on s'est mis à dire polar et pas roman policier alors que au départ, c'est la même chose ?
Eh bien, sans doute parce qu'on aimait ça, Ali. Ce type d'histoire, le suspense, l'enquête qui mène à la vérité, le crime. Les ingrédients du roman policier, non plus neutre, moins marqué que polar, qui en dérive, et qui porte par différence une nuance expressive, affective. Un polar est bon, c'est un bon polar. Dans polar, il y a le goût, voire la tendresse, la nostalgie, pour le monde qu'il fait revivre. Ainsi parle Nicolas Demorand du premier roman de Joseph Bialo, paru en 1977, Le Salon du Prêt à Saigner.
Le salon du prêt-à-porter, du prêt-à-saigner, pardon, est marqué par une gouaille et un esprit d'un autre temps, les jeux de mots et la moquerie pour son époque, le tout dans un Paris qui n'existe plus, mais dont un lecteur de mon âge a encore des souvenirs confus. Un classique, donc, et un bijou de polar venu des temps anciens.
Des temps anciens, l'esprit du temps, les années 70, où émerge donc le mot polar, qui en mimant un procédé argotique typique, expliqué par Louis-Jean Calvet, ne retient de policier que le début, Paul, troncation par apocope, et lui ajoute le suffixe art, le temps du cinéma de Michel Audiard, des premières chansons de Renaud. Il m'a filé une belle, je lui ai filé une torgnole, ta-da-da, je lui dis, l'espéton.
Bravo pour la. Bravo.
Le temps des romans de Roger. C'est clair, elle n'a pas voulu mettre le son, elle m'a dit chante.
On parle de Claire Destacan, notre réalisatrice. Hein.
C'est le temps des romans de Roger Borniche, le policier écrivain qui, dans sa préface à Flick Story, dit vouloir expliquer qui sont ces hommes mal aimés, les flics, les poulets, les cognes. Cogne, argot du 19e, de cogner. Poulet, de l'argot métaphorique italien, la poule pour la police. Aujourd'hui, non flics n'ont plus rien, nos flics n'ont plus rien de la volaille, ce sont des keufs en verlan ou des fuckeux en reverlan. Au 19e, Paris se rebaptise Paname, comme chez Renault encore. Je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Voilà. Ok, j'arrête.
Un bon moment de gênance.
Ouh, j'ai fini. Ou pantruche, à partir de l'argot pente ou pantre, à savoir le bourgeois un peu nigaud à dévaliser, avec le suffixe huche qui a cessé d'être productif mais nous a laissé les grosses paluches. Donc pantruche, c'est le Paris vu d'en bas, de la rue, la ville des pantins à plumer, des appartements à cambrioler. Cambriole, au 19e, c'est la chambre à dévaliser. Bref, autant de mots qui ont perdu leur argoticité à mesure qu'ils se sont répandus. Des très très courants, comme mec. Des moins courants, comme loufoque, formés sur fou, comme le verlan ouf. Sauf que loufoque, lui, suit le code louchébem, pratiqué par les bouchers au 19e, car l'argot est dans son premier sens une affaire de corps de métier. Donc le louchébem consiste à remplacer la première lettre d'un mot par elle et à remettre cette dernière lettre à la fin du mot. Fou devient louf, boucher loucheb, à quoi on ajoute un suffixe argotique, m ou oc pour loufoque, qu'on trouve aussi dans vioc et amerloc. Bref, si le 19e est riche en argot délinquant, c'est aussi parce que Vidocq, l'aventurier malfrat devenu détective privé, publie ses mémoires au début du siècle. Balzac, Eugène Sue, Victor Hugo, tous s'y plongent avec effroi et délice et y puisent la matière de leurs livres. C'est le début d'une grande littérature populaire qui exalte et fantasme, comme Hugo dans Les Misérables, je le cite, la langue de la misère. Une langue, ou plutôt des langues, des sociolectes donc, parlée dans certains milieux et depuis des siècles, pour, en gros, 1. Ne pas être compris, par nécessité ou par plaisir, c'est le code. 2. Marquer l'appartenance à un groupe, contre les autres. Une identité donc subversive. Code et identité qui se perdent à mesure que l'emploi se répand. Femme a donc fait meuf en verlan, qui se reverlanise en femeux. Bref, voilà de l'évolution créative, un des lieux de renouvellement de la langue au 19e et 20e, surtout à la ville, là où ça grouille, ça gouaille et ça cogne, là où il y a de la vie. Un dernier son nostalgie avec cette archive de 1968, où Michel Audiard explique pourquoi de la Beauce, il retourne si souvent à Paris.
On peut pas couper le cordon ombilical avec
non,
Paris.
Non, mais je vais à Paris assez régulièrement, parce qu'il est évident que si on vit à la campagne, c'est vite terminé ce métier-là, parce qu'il y a les mots nouveaux, surtout si on use un peu de l'argot, ce qu'on me reproche d'ailleurs volontiers, oui. Mais c'est la seule langue qui bouge tout de même. Sans ça, on parlerait encore comme au 18e siècle, mais il n'y a que l'argot qui fonctionne un peu. Or, l'argot, on ne l'entend pas beaucoup en Beauce quand même, faut pas rêver.
Faut pas rêver. L'argot, qu'Audiard préférait appeler langue populaire, n'est que l'un des noms d'une langue qu'on tord et remodèle à nos images, ces images imaginaires qui font la matière de nos rêves.
Guillemette, un mot.
Ah, oh, mais j'adore. J'adore. Et enfin, moi, ça me fait penser à plein d'expressions et justement plein de polars. Enfin, ça me fait penser à ce qu'on lit dans Sant'Antonio. Ça me fait penser, évidemment, à voir la cerise.
Tout ce langage chez les ploucs.
Enfin, oui, voilà, rasier chez les ploucs. Enfin, c'est fabuleux parce que c'est extrêmement imagé en même temps. J'adore.
Tous les épisodes de votre chronique, Julie Neuvet avec la langue, sont à écouter, réécouter sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi. Thibaut, Julie, Guillemette et Grégory, merci Christine Ferniaud qu'on peut lire dans le Jeudi Polar sur libé.fr. Merci Théodore Dillerin, on peut admirer votre imposante barbe et chevelure et profiter de vos conseils à la librairie Le Comptoir des Mots dans le 20e arrondissement de Paris. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, une émission consacrée aux prématurés. Nous attendons toutes vos questions sur la prématurité. Tiens, vous étiez prématurée, ma chère Guillemette.
Tout à fait.
Bienvenue au club. Allez.